Monsieur Blocher. Bonjour, Monsieur Chauny. C'est toujours un plaisir et un honneur pour moi de m'entretenir avec vous. La dernière fois, nous avons discuté ensemble de la théologie et de l'influence sur votre pensée de Jean Calvin. Entre-temps, vous avez aussi discuté avec Lydia Yeager de Blaise Pascal et également, je vais le dire avec la prononciation française habituelle de Søren Kierkegaard. Et bon, bah, je suis très heureux d'enregistrer avec vous cette émission consacrée à la prochaine grande figure théologique qu'il y a sur cette liste des grands théologiens qui ont exercé une certaine influence sur vous. C'est celui qui est parfois appelé le lion de Princeton, l'américain B.B. Warfield. Là encore, je le prononce à la française, hein, Warfield, professeur de théologie didactique et polémique au Princeton Theological Seminary à la fin des années 1880 jusqu'à sa mort en 1921. Et donc, avant que vous nous parliez de Warfield, le théologien, j'aimerais savoir si vous aimeriez nous dire un mot sur la personne de Benjamin Breckinridge. C'était ses prénoms, hein, derrière les initiales BB, il y a Benjamin Breckinridge, avec quelques éléments biographiques, peut-être qui pourraient intéresser nos auditeurs.
Oui, alors bien sûr, je ne l'ai pas connu personnellement, mais d'après ce que j'ai lu, ce qui transparaît de lui, il est très représentatif d'une sorte d'élite culturelle américaine que nous ignorons trop souvent. Je le crois avoir lu quelque part que la connaissance du grec ancien, du latin au XIXe siècle a été davantage prisée outre-Atlantique que même dans notre vieille Europe. Il y a eu une élite académique très très remarquable qui faisait le voyage d'Europe aussi régulièrement, mais dont il est, me semble-t-il, un représentant éminent. Sa vie a été une vie de professeur, de théologien travaillant dans ses livres. Il n'y a pas eu de grands événements dramatiques et bouleversants à aucun moment, ce qui me permet en un sens de m'identifier quelque peu à lui. Il y a aussi un petit élément commun de mon enfance, c'est des souvenirs de la guerre, de la Deuxième Guerre mondiale. Or, son enfance a aussi été marquée par la guerre de sécession aux États-Unis. Son père avait pris fait cause pour la cause du Nord, la cause abolitionniste par rapport à l'esclavage, mais la famille a été affectée, sinon déchirée, par l'opposition des deux camps. Donc il avait ce souvenir d'enfance. Voilà un élément biographique que j'ai retenu dans la lecture. Un autre trait qui m'émeut, Warfield a été quelque peu contraint ou il s'est senti obligé d'être finalement seulement un professeur et un auteur écrivant des livres parmi ses livres, parce qu'il a consacré une grande part de son temps aux soins de sa femme. Sa femme qui s'est trouvée handicapée. Et si Warfield, dans les premières années de son mariage, est intervenu dans les affaires de son union d'église, a eu un rôle de leader à cet égard, il y a très vite renoncé pour pouvoir être auprès de son épouse. J'admire. Et je pense que le Seigneur s'en est servi aussi pour le contraindre en quelque sorte à écrire l'accomplissement d'un ministère qui vaut encore pour nous aujourd'hui.
Merci beaucoup. Puis-je vous demander maintenant, en toute simplicité, ce qui suscite, pardon, chez vous, plus que toute autre chose, parmi ses écrits, votre admiration pour B.B. Warfield? S'il fallait isoler un
Il est
aspect.
sûr que ce qui m'a d'emblée impressionné chez lui et attiré à lui, qui a fait que vraiment je me suis mis à l'école de certains de ses textes, c'est la précision de son exégèse, la richesse de son érudition, il se replaçait pratiquement tous les autres auteurs évangéliques de cette ancienneté que je pouvais connaître. Et cela dans une fermeté d'orthodoxie impeccable. En tout cas, mes yeux, il m'a convaincu. Et donc cela, je l'ai vivement apprécié.
Warfield, à ce sujet, vous avez noté son exégèse, ce qui n'est pas toujours le cas pour un systématicien. Il avait une formation d'abord en Nouveau Testament, c'était sa première discipline de prédilection, et puis c'est seulement ensuite, bon, assez rapidement, on va dire, il a été repéré par les Hodges, par Archibald Hodges. Assez rapidement, il a bifurqué vers la théologie systématique. Alors, Warfield, bien que systématicien, n'a jamais écrit d'ouvrage intitulé « Théologie systématique » ou « Dogmatique » ou peu importe. Il estimait sans doute que celle que son prédécesseur, avant lui, donc Charles Hodges à Princeton, faisait bien l'affaire. D'ailleurs, vous avez parlé tout à l'heure de cette estime du latin et du grec en Amérique au XIXe siècle. Il faut savoir que jusque à la publication de la systématique de Hodges, le manuel de cours, c'était l'institutio de Turretin en latin. C'était ce qui était utilisé à Princeton et dans d'autres facs réformés, notamment aux États-Unis. Et quand on lit Hodges lui-même dans sa systématique, il y a des passages entiers où il y a du latin, du grec, de l'allemand. Warfield lit, on le voit au fil des recensions qu'il fait, très bien dans plein de langues. Il connaît les ouvrages publiés en français, en allemand. Et pas seulement dans sa langue, donc il y a cette érudition aussi linguistique qui entre en compte. Donc Warfield, même s'il n'a jamais écrit de théologie systématique, et finalement il a écrit assez peu de monographies également, hein, son œuvre c'est essentiellement de longs articles, hein, à nos yeux aussi. Certains articles sont de la taille de petits livres, hein, chez les évangéliques, ça rend moi-même, j'ai tenté, pour la revue réformée, de traduire quelques articles de bibliographie. On m'a dit, ça fait beaucoup de mots, quand même, pour publier. Il faudrait peut-être expurger ou faire des morceaux choisis. Son œuvre est essentiellement composée de longs articles et d'un nombre très impressionnant de recensions. Est-ce qu'il y a quelques articles de Warfield qui vous ont particulièrement marqué, hein, avec les caractéristiques que vous avez mentionnées tout à l'heure, et que vous jugeriez utile de porter à la connaissance de nos auditeurs?
Alors, à coup sûr, je peux souligner que ce renoncement de Warfield à la rédaction d'une théologie systématique d'ensemble, en un sens, cela aussi je l'ai imité, avec des circonstances très très différentes. Je pense qu'il a pu se concentrer sur sa tâche de théologie systématique, alors que moi je me suis beaucoup plus dispersé dans différents domaines. Et le contexte, la situation des églises en France, dans mon temps, et celui des églises presbytériennes américaines en son temps, c'est une situation assez différente. Mais voilà, il y a aussi un trait qui me semble d'homologie, sinon de ressemblance entre Warfield et moi, qui comptera tout petit peu dans l'affection que j'ai pour lui. Alors, en ce qui concerne les textes qui m'ont d'emblée conquis pour la lecture de mon fil, dans ma mémoire, le premier d'entre eux, alors je ne garantis pas que ce soit le premier que j'ai lu, mais le premier qui reste dans ma mémoire comme vraiment très important, qui m'a décidé, parce qu'il m'a fait choisir une position théologique que depuis j'ai gardé et tenté de défendre. Ce n'est pas un article, mais c'est un petit livre. C'est The Plan of Salvation, le plan du salut. Il m'a convaincu parce que jusqu'alors, je gardais la question ouverte. C'était en suspens. Pour moi, il m'a convaincu de la justesse de la doctrine de l'expiation définie. Et c'est Warfield. J'avais entendu une conférence du professeur Roger Nicole, qui ensuite a été mon professeur, mais sur ce sujet même, ça s'était déroulé à la convention de Morges en Suisse romande, mais je n'avais pas été d'emblée convaincu.
Est-ce que vous voulez bien expliquer à nos auditeurs qui ne connaîtraient pas cette question de l'expiation définie, de ce qu'on entend par là et Quelle est la nature du débat qu'il y a autour de cette question?
Alors, c'est un débat qui s'est surtout animé, mais il est plus ancien que cela, hein, au XVIIe siècle, parmi les réformés français, les théologiens, qui se voulaient plus ouverts, courant de la modernité, qui enseignaient dans l'académie de Saumur, on appelait Moïse Amirault, qui a défendu une thèse qui est défendue par d'autres, qu'on appelle l'universalisme hypothétique, selon laquelle, bien que seuls les élus de Dieu, connus dès avant la fondation du monde, seront sauvés au bout du compte, à la croix, dans le sacrifice du Christ, il n'y a pas de différence entre les élus et les réprouvés. Le Christ s'est substitué indifféremment à tous les humains, au sens numérique du terme. Ça, c'est la position que Moïse Amirault a défendue, et contre cette position, on a appelé doctrine de l'expiation définie ceux qui défendaient la position contraire. Il y a certes un sens dans lequel il est tout à fait possible, permis de dire que le Christ est mort pour tous les hommes, même numériquement. Il y a certains aspects de son sacrifice qui valent comme une source de bienfaits pour tous. Mais en ce qui concerne la substitution qui assure de manière tout à fait certaine le salut éternel, c'est aux élus, à ceux qui allaient croire que le Christ s'est substitué. Le champ de l'expiation dans son cœur, dans l'élément le plus déterminant, il est défini et non pas indéfini. D'où le nom d'expiation définie.
Pour nos auditeurs, peut-être qu'ils connaissent un peu ces questions liées aux fameux 5 points du calvinisme, souvent une première approche, une approche populaire se fait sous l'acronyme TULIP en anglais. Et donc nos auditeurs ont peut-être plus l'habitude d'entendre le terme d'expiation limitée. Ici, ils vous ont entendu parler d'expiation définie. Est-ce qu'il y a une raison que vous voulez expliciter qui vous pousse à choisir ce vocabulaire-là plutôt que l'autre, peut-être mieux connu?
Je crois qu'en français, quand même, on a dit depuis longtemps plutôt expiation définie. Mais effectivement, en anglais, la formule la plus courante a été expiation limitée, limited atonement. Et lorsqu'on a réalisé l'acronyme TULIP, en prenant les mots qui désignent les 5 doctrines les plus typiques du calvinisme définies au synode d'Ordre, le L correspond à cette idée de limite. Je trouve que l'expression est très trompeuse, mais non seulement humoureuse, mais trompeuse, parce que il s'agit bien au contraire de présenter le sacrifice du Christ comme ayant une efficacité illimitée. Tous ceux pour qui il s'est substitué sous le châtiment et de manière à payer entièrement leur dette seront sauvés. Il n'y a pas de limite qualitative à l'efficacité de son sacrifice. Alors qu'avec l'universalisme hypothétique, comme on dit dans la position de Moïse Almirault, en fait, la valeur de l'expiation est fort limitée, puisqu'elle ne garantit pas que ceux pour qui le Christ est mort seront sauvés. La limite, elle est plutôt du côté de l'universalisme hypothétique. Le professeur Roger Nicole a une image que je trouve délicieuse à ce propos. Je ne peux pas m'empêcher de la citer parce qu'il y a de l'humour en même temps. Hein. On peut dire que le sacrifice du Christ jette un pont sur le fleuve qui sépare ceux qui sont sous la condamnation du péché et ceux qui reçoivent la vie éternelle. Dans le cas de l'universalisme hypothétique, le pont ne rejoint pas l'automobile. C'est comme, dit-il, le pont Bénezet à Avignon, le pont qui s'arrête au milieu du Rhône. Un tel pont, il est bon tout juste pour qu'on y danse sur le pont de l'Avignon. Je pense qu'il a tout à fait raison de plaider dans ce sens. Alors, bien sûr, si le mot limité a été utilisé essentiellement en langue anglaise, c'est parce que la portée de l'expiation semble illimitée dans l'universalisme hypothétique. Quantitativement, si on veut, c'est illimité. Mais qualitativement, c'est tragiquement limité.
Oui, dans ce débat-là, il faut se rendre compte que si ça s'étend à tout le monde de manière illimitée, ça veut dire que l'efficacité est, elle, limitée, alors que si l'efficacité est illimitée, qu'elle va au fond et qu'elle assure le salut, eh bien, ça, et que tout le monde n'est pas sauvé, eh bien, ça signifie que elle est limitée, elle est définie au nombre des élus.
Alors, je peux signaler peut-être, pour ceux qui veulent poursuivre davantage, qu'il y a un assez gros volume auquel j'ai contribué quelque chose, qui a été publié en anglais, sur le sujet, entièrement sur le sujet. Il s'appelle From Heaven He Came and Sought Her. Il est descendu du ciel et il est à la recherche de son Église. Et James Packer, le fameux théologien, l'a salué comme le livre sans doute le plus important depuis pas mal de décennies sur le sujet. Alors je signale cet ouvrage.
Très bien, merci beaucoup, Monsieur Blocher. Avant que je qu'on fasse dévier un peu l'entretien sur cette question spécifique de l'expiation définie, vous étiez sur le point de nous parler de peut-être de quelques articles de B.B. Warfield sur la question de l'inspiration.
Oui, il y en a. C'était un de ces créneaux. Un des lieux du front sur lequel il s'est particulièrement battu. Il y a d'ailleurs une controverse avec un grand érudit, professeur d'Ancien Testament, qui était presbytérien, mais qui adoptait des vues critiques incompatibles avec l'inhérence de la Bible, son infaillibilité. Et Warfield a vraiment là soutenu le combat. Il y a plusieurs de ces articles qui sont tout à fait remarquables. Je vous rappelle celui qui démontre très très bien que pour le Nouveau Testament, ce que l'Écriture dit, Dieu le dit. C'est un peu le refrain, mais il démontre très finement et en dialogue polémique, hein, que les théologiens de son époque, mais avec raffinement de preuves très, très remarquables. Et puis, il y a sa démonstration du sens que le mot théognostos, qu'on traduit habituellement inspiré de Dieu, a en la seconde épître à Timothée, chapitre 3, verset 16. Il démontre très bien le sens que beaucoup de théologiens, et encore aujourd'hui, ignorent. C'est un mot composé qui a un sens essentiellement passif, Knustos vient du mot qui désigne l'esprit, mais il est de dérivation telle que c'est un sens passif. Il doit lui être donné. L'écriture est spiritée ou soufflée, parce que le mot esprit veut dire souffle, par Dieu. Voilà ce que signifie le terme. Je crois que la démonstration est vraiment très très solide, très bien faite, qu'elle tient jusqu'à ce jour. J'ai été heureux d'ailleurs de voir dans un texte de ce grand philologue dominicain, Saint-Speak, qu'il reconnaît tout à fait ce sens de théognostos. Mais il y a encore pas mal de théologiens qui l'ignorent et qui du coup pensent qu'il s'agit d'une relation extrêmement floue entre l'esprit et l'écriture.
Et c'est vrai qu'en français, dans la construction du mot, le mot inspiré, puisqu'on parle de l'inspiration de l'écriture, et que dans notre traduction, il y aura écrit toute écriture est inspirée de Dieu, l'inspiration, ça peut être quelque chose d'assez vague. C'était inspirant comme sermon. Il n'était pas très inspiré aujourd'hui. C'est l'idée de quelque chose qui se passe à l'intérieur du bonhomme, mais qui n'a pas de conséquences, ou qui a des conséquences assez vagues sur ce que la personne en question va dire. Alors qu'ici, cette thèse de l'inspiration comme étant soufflée par, soufflée par Dieu, cette parole soufflée par Dieu, cette écriture soufflée par Dieu, eh bien, ça donne, ça qualifie la qualité de ce qui est produit. Et donc, c'est l'écriture elle-même soufflée par Dieu et qui est montrée comme parole de Dieu. C'est peut-être une des influences majeures de B.B. Warfield sur le monde évangélique, y compris
Ah oui,
francophone, même des gens qui ne connaissent pas B.B. Warfield, mais c'est quand même quelque chose qu'on entend dans les prédications évangéliques et dont on peut se réjouir, c'est de cette défense, lorsqu'il y a une prédication sur 2 Timothée 3,16, cette défense de l'idée que, et sans doute par la médiation de vos propres travaux, ainsi que de ceux de votre collègue, confrère à l'époque, Paul Wess, cette idée que l'écriture est la parole de Dieu soufflée par lui, ce qui fait que ce que Dieu dit dans l'écriture, eh bien, il le dit lui-même, il en est l'auteur, et donc il y a cette qualité de parole de Dieu conférée qui marque et qui caractérise l'écriture.
Oui, à mon avis, dans le débat scientifique, académique du XXe siècle, s'il y a une position qui est demeurée très, très ferme, conforme à la grande tradition chrétienne sur l'inspiration des Écritures, c'est quand même grâce aux travaux de Warfield. En tout cas, moi, je me sens en dette envers lui. Et je n'ai lu personne qui, indépendamment de Warfield, en tout cas, ait fait mieux ou autant que lui. C'était quand même.
Oui, il a écrit. C'était vraiment un front important de son combat. Hein. Effectivement, suite à la controverse qui s'est passée au sein de l'Église presbytérienne américaine avec ce professeur d'Ancien Testament, je crois que c'était Charles Brice. Effectivement, il a été sur le front. Alors, il y avait des motions pour modifier la confession de Westminster, qui était le document confessionnel de l'Église presbytérienne. Bon, une des conséquences a été aussi des schismes au sein de l'Église, avec des éléments libéraux qui sont séparés des éléments orthodoxes, des éléments évangéliques. Effectivement, il y a eu ce combat qui a été mené. B.B. Warfield a fait partie de ceux qu'on a appelés les fondamentalistes il a écrit pour les fameux livrets sur les fondamentaux à défendre. Donc, il y avait cette question de l'inspiration de l'écriture, de la virginité, de la naissance virginale du Christ et ainsi de suite. Alors, juste si on en reste sur cette question de l'inspiration, est-ce que vous pensez que ce beau combat que B.B. Warfield a mené il y a un siècle dans un contexte qui était différent du nôtre, mais que vous-même avez mené pour consolider la doctrine de l'écriture dans le monde évangélique, que mon prédécesseur Paul Wells a aussi mené avec la publication d'un certain nombre d'ouvrages consacrés à la parole de Dieu, est-ce que vous pensez que ce beau combat que vous avez mené est derrière nous, qu'il est consolidé pour le monde évangélique? Ou est-ce qu'il faut s'attendre à ce que la nouvelle génération de théologiens dont je fais partie ait à continuer ce combat et à mobiliser à nouveau, peut-être, tous les arguments qu'on trouve dans ces articles de B.B. Warfield et qui ont été repris, développés, fortifiés par vous ou par Paul Wells?
À un moment, j'avais espéré que cette bataille gagnée, on pourrait peut-être un peu désinvestir sur ce front particulier, parce que je me disais, le libéralisme a tellement montré la vacuité de son aboutissement. L'affaiblissement des églises de plus en plus désertées, donc les évangéliques devaient être vaccinés, si j'ose dire, contre la tentation de glisser de nouveau vers lui. Mais hélas, j'observe qu'à chaque génération, la tentation prend des formes nouvelles et qu'elle séduit un certain nombre à nouveau. Et donc, je crois que le combat doit être repris pratiquement chaque année.
Est-ce que vous voyez il y a des nouvelles formes, il y a des nouveaux endroits. Est-ce qu'il y a des endroits où la séduction, par laquelle la séduction, des canaux par lesquels la séduction aujourd'hui vous semble plus facilement entrer et remet en cause ou sape la doctrine évangélique traditionnelle de l'inspiration?
Je pense qu'aujourd'hui, la question qui se trouve au centre n'est plus tout à fait la même, en effet, que celle qu'on débattait au temps de Warfield, que c'est le relativisme ambiant et des thèses qui accordent au lecteur une sorte de privilège de détermination du sens, non pas de découverte, mais de création même du sens, qui sont les formes les plus insidieuses. liée à ces passions intellectualisées nouvelles qui correspondent à ce qu'on appelle l'idéologie woke et à ces revendications de minorités qui considèrent que leur option doit et a pleinement le droit de régenter leur lecture de l'écriture, de telle sorte que ce n'est plus son sens à elle qui devient la norme, mais ce qu'ils en font à partir d'une conviction de justesse dans leur combat. Je pense que c'est la forme qui aujourd'hui est la plus visible au moins du combat.
C'est l'héritage du déconstructionnisme
Oui.
appliqué à la lecture de la Bible,
Oui.
avec l'objectif de faire de cette lecture idéologique une arme de combat pour défendre des thèses qui résonnent avec la société environnante.
Je souscris entièrement à ce que vous venez de dire. Oui.
Et c'est vrai que c'est un des éléments dont on peut se poser la question. Il y a des associations qui aujourd'hui font partie du CNEF, qui peuvent dire qu'ils adhèrent à la confession de foi de l'Alliance évangélique mondiale, mais quand on regarde au cas par cas la manière dont où les résonances et la manière dont certains combats sont menés, ça peut poser effectivement une question à ce niveau-là. La dernière fois que nous étions vus, Monsieur Blocher, nous avions discuté ensemble de Jean Calvin, avant que vous discutiez avec Lydia de Blaise Pascal et de Kierkegaard. Alors, il se trouve que Billy Warfield a écrit plusieurs longs articles sur le réformateur français de Genève. Vous qui avez vous-même écrit un peu sur Calvin, comme on avait discuté la fois précédente, comment situeriez-vous le niveau de contribution de Warfield, hein? Il y a un ouvrage entier dans les œuvres de Warfield qui mettent un volume entier qui mettent la contribution de Warfield sur Calvin. Est-ce qu'il a apporté quelque chose de significatif en calvinologie? Est-ce qu'il est toujours, un siècle plus tard, un guide intéressant pour comprendre certains aspects de la pensée de Calvin?
Alors, il est toujours intéressant, mais j'avoue que sur Calvin, je ne me sens pas tellement sous son influence. J'ai l'impression que la lecture des règles de Calvin m'a suffi, que j'ai élaboré en quelque sorte l'image que je me fais du réformateur et le sens que je donne à son enseignement, un peu indépendamment à côté de ce que j'ai pu lire chez Warfield. Je pense que Warfield a des précisions extrêmement utiles sur, par exemple, le sens exact des termes qui concernent la doctrine de l'expiation, mais peut-être davantage en rapport avec le XVIIe siècle qu'avec Calvin lui-même. Il y a un point sur lequel je trouve quand même qu'il a exagéré. Il a le souci de montrer très très fortement que pour Calvin, le Fils est pleinement Dieu. Il a lutté contre une tendance subordinationniste, comme il faut bien dire, c'est pas la même chose que subordination, subordinationniste, qui tente à présenter la divinité du Fils comme en quelque sorte secondaire et dérivée par rapport à la divinité du Père. La tendance me semble exister dans la tradition, en particulier chez les Carmélites. Mais dans la volonté de réagir contre elle, il me semble que Warfield ignore la force de la notion de subordination du Fils au Père que je trouve chez Calvin. Il me semble qu'il a la formule qui est juste, hein, qui, je pense, correspond à la condition de Calvin, selon laquelle le Fils est autotheos, Dieu lui-même, et cela fait partie de la confession que j'essaie de rendre. Mais cela n'empêche pas qu'il y a un ordre trinitaire, et cela, Warfield le nie pour lui-même, et il tente à l'ignorer chez Calvin.
D'accord.
Sur ce point, je ne suis pas tout à fait d'accord.
Alors, est-ce que vous pouvez juste revenir sur un aspect que vous avez mentionné vous avez parlé de subordinationnisme Et en disant que c'est pas la même chose que subordination, est-ce que vous pouvez nous faire un point de précision sur cette question-là?
Oui.
Ce sera peut-être un peu technique, on verra ce
Oui,
qu'on appelle dans
alors l'expression subordinationnisme est classique en français, mais ça fait partie du vocabulaire technique de la théologie depuis un nombre de siècles. On appelle subordinationnisme la doctrine qui fait du Fils un Dieu, si on veut, mais inférieur au Père, parce que sa divinité est considérée comme dérivée de celle du Père. Elle est donc secondaire, et on aurait presque, dans le rapport du Père et du Fils, comme une première esquisse de l'idée de divinisation.
On trouve cette idée chez des pères au moment où ils tâtonnent justement pour construire la doctrine trinitaire.
Oui, c'est ancien, et donc cette doctrine subordinationniste a été condamnée des conciles, parce que elle veut dire, au bout du compte, que le Fils n'est pas vraiment Dieu. Elle nie qu'il y a un seul Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, dont l'essence n'existe qu'une seule fois. Et donc, effectivement, c'est une doctrine fausse, mais la tendance va dans ce sens, et donc elle l'a combattu à juste titre, et on fuit un combat à juste titre. Mais c'est une chose distincte de l'idée de subordination qui signifie simplement qu'il y a un ordre, que les personnes divines, selon que on a distingué entre l'essence et les personnes, sans séparer jamais, bien sûr, dans la divinité, et que les personnes subsistent dans un ordre donné, Père, Fils et Saint-Esprit, et non pas dans l'ordre inverse ou n'importe quel ordre.
Est-ce que ici vous faites équivaloir comme des quasi-synonymes subordination et ordre trinitaire?
Oui, et oui, le mot subordination vient du mot ordre, ordo. Ordo ordinis, donc il s'agit simplement d'affirmer
Il y a
qu'il y a un ordre,
un premier, un
qu'il y a un
deuxième,
ordre.
un troisième.
Exactement. C'est cela que le mot subordination suppose, et je crois que c'est une vérité biblique. Elle est très traditionnelle. Étrangement, Wanfield l'a combattue, mais il ne m'a pas convaincu par les arguments qu'il a avancés à cet égard.
Vous avez un article sur la Trinité anarchique que vous consacrez, je pense, en partie à Miroslav Volf, peut-être,
Oui,
et dans lequel vous relevez précisément, c'est une mention négative qu'on a dans vos écrits de Biblio, en fait, justement, en disant qu'il est aussi précurseur
et oui, là,
de
sur ce point, je suis obligé de me séparer de lui, si grande que soit l'admiration que j'ai pour lui.
Pour autant, peut-être une différence qu'on a entre B.B. Warfield et d'autres tenants de la Trinité anarchique aujourd'hui, ou récemment, il y a une tendance chez les promoteurs actuels de la Trinité anarchique d'aller vers une forme assez marquée de Trinité sociale, ce qu'on ne peut pas dire
Pas du tout,
de
pas du tout. On est
Warfield.
fléchis en fil, pas du tout.
Est-ce que j'ai peut-être mis des grands mots, notre producteur me fait signe. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots de cette idée de trinité sociale, à quoi ça correspond et pourquoi est-ce que, en bonne théologie, on doit s'opposer à cette manière de concevoir la trinité?
Il y a une tendance qui est forte depuis quelques décennies, hein, ce n'est pas juste ces dernières années, en gros depuis les années 1950-60 que la chose apparaît assez clairement, et je pense que le représentant le plus connu et le plus fort de la tendance serait le théologien allemand Jürgen Moltmann, à privilégier ce qu'on peut appeler le modèle social de la Trinité. Et il y a trois, on appelle Père, Fils et Saint-Esprit, et il y a trois qui réclament notre allégeance, auxquels nous apportons notre adoration. Alors il faut dire qu'ils sont un parce que ils sont tellement unis l'un à l'autre, parce que il y a inhabitation de l'un dans l'autre, ce qu'on appelle classiquement la péricorèse, ou circumincession en traduction latine. Et donc, on commence à penser trois, et on affirme qu'il y a un seul Dieu au bout du compte, en disant qu'ils sont tellement étroitement unis. Or, je pense que cela ne correspond pas au témoignage public sur l'unicité de Dieu, qui n'est pas vraiment du monothéisme. On glisse, malgré les négations, vers un trithéisme qui, en quelque sorte, annulerait ses effets par la proximité que les personnes auraient entre elles. Et ce modèle, d'ailleurs, est même défendu de manière prudente, quelque part, chez Moltmann, en disant, bon, il ne faut pas avoir peur du trithéisme. C'est pas si grave, au fond. Parce que, et une critique chez Moltmann et chez d'autres théologiens de sa génération, avec une très forte influence. Moltmann est un théologien qui, dans l'écuménisme de type ordinaire, a exercé le plus d'influence. Théologien numéro un pour ce qu'on appelle le mouvement œcuménique pendant toute la dernière partie du XXe siècle. Donc, une forte influence. Il y en a d'autres qui attaquent le monothéisme comme tel, qui utilisent le terme négativement. Je crois qu'en particulier, quand on dialogue avec les musulmans, c'est très désastreux. Et que avec les juifs, que l'affirmation d'un seul Dieu est première dans l'Écriture, qui n'est pas revenir, pas l'affaiblir d'aucune façon.
Vous avez parlé tout à l'heure, vous avez mentionné en passant l'idéologie woke. Est-ce qu'on peut faire une relation ici avec une forme d'exaltation de la diversité dans le discours politique ambiant et de dire finalement pour exalter cette diversité aussi au sein de la création, eh bien, on va la ramener en Dieu et on va accentuer la diversité. Et donc, ce modèle social quasi-trithéiste trouve plus de résonance positive chez cet
À partir des années 60, puis depuis la reconstruction après la guerre, Deuxième Guerre mondiale, je pense qu'il y a eu un renversement des priorités, alors que l'unité totalitaire dans le domaine politique ayant montré les horreurs qu'elle engendre, il y a une exaltation de la différence. C'est souvent le mot différence qui est employé même plus encore que de diversité. Et elle devient une idole, à mes yeux, avec certaines conséquences politiques qui n'ont pas encore épuisé toute leur nocivité. Malheureusement, je crois que ces choses apparaissent même ces semaines que nous vivons.
Je me souviens au moment du début du conflit entre la Russie et l'Ukraine. J'avais lu cette phrase sur un réseau social bien connu, dans lequel un intervenant évangélique écrivait de toute manière, lorsque on est de culture orthodoxe avec une logique très subordinationniste, eh bien, on peut pas gérer la démocratie. Il faut une doctrine de la Trinité. Alors, concevait comme occidental, mais ça tendait vers la trinité sociale et le trithéisme, pour pouvoir avoir la démocratie. Est-ce que c'est abusif de faire ce genre de relation?
Les relations sont toujours envisageables, hein, que le modèle même de la divinité que l'on professe peut influer sur la sensibilité commune en matière politique aussi bien. Donc, je ne nie pas la possibilité d'une relation. Mais le point sur lequel j'ai envie d'insister d'emblée, c'est que je pense que la démocratie, comme disait Churchill dans cette formule qu'on répète si volontiers, mais qui me paraît très, très, très pertinente, c'est le plus mauvais de tous les systèmes, à l'exception de tous les autres. Mais que faire de la démocratie et du principe démocratique en absolu, c'est tomber dans l'idolâtrie. Qu'en effet, la démocratie pure qui devient le seul principe dirigeant de toute la vision du monde, cela finalement s'éloigne de l'enseignement public et Nous avons, nous, un Seigneur des Seigneurs, un roi des rois, c'est dans le monde pécheur tel qu'il est que la démocratie, fonctionnant plus ou moins bien, me paraît le moins mauvais des systèmes, mais je ne pense pas qu'on doit en dire beaucoup plus en sa faveur. C'est déjà beaucoup, puisque c'est finalement la référence vers laquelle je me porterai. En tout cas, dans le contexte socioculturel qui est le nôtre, parce qu'il est possible que des contextes très très différents rendent impossible un fonctionnement démocratique positif. Je ne peux pas l'exclure totalement non plus. Mais donc, une relation, oui. Mais je voudrais intervenir encore pour différencier les trinités anarchiques, c'est-à-dire sans principe, sans ordre, et de type social, qui ont du succès depuis quelques décennies dans la théologie protestante et catholique de notre chrétienté, et les tendances subordinationnistes dans l'antiquité chrétienne surtout, dont on retrouve, me semble-t-il, quand même un certain reflet dans la théologie de l'orthodoxie orientale. Dans le modèle moderne, si moderne, moderne post, comme je préfère dire, social, de la trinité sociale, c'est d'abord l'égalité des personnes que l'on pose, que l'on met en valeur, souvent avec l'idée de démocratie en arrière-plan. Ce n'est pas du tout le cas du subordinationnisme ancien, pour lequel c'est plutôt qu'il ne saurait y avoir finalement qu'un seul Dieu majuscule qui est le Père, et que les deux autres personnes de la Trinité, comme l'orthodoxie chrétienne les admet, sont Dieu par la relation au Père, par la participation au Père, par dérivation, on demande l'aspiration.
Merci Monsieur Blocher pour ces précisions. On s'est un petit peu écarté de bibliographie, on a fait un tour par la Trinité, par l'idéologie woke, l'idéologie diversitaire, la démocratie, donc on s'est un peu éloigné. On va revenir peut-être sur le terrain plus théologique. Warfield est connu comme un théologien de l'aspiration. C'était également en son temps un apologète, et d'ailleurs c'est pour ça qu'il a même parlé de l'inspiration, un apologète de premier rang, qui a non seulement défendu face au libéralisme théologique, l'inspiration de l'écriture, mais aussi la doctrine trinitaire, la divinité de Christ, la doctrine des deux natures, tout aussi bien que le caractère foncièrement biblique de la substitution pénale. On a aussi chez Warfield quelques beaux textes sur le développement de l'humanité du Christ et surtout sur ses émotions humaines. Son grand article sur les émotions du Christ a été traduit en français. Je pense que c'est un des rares textes qui a été traduit en français, mais il a dû être expurgé parce qu'il était trop long, je pense, pour être traduit tel quel dans la revue Rockma. Et je crois que vous aviez écrit la préface de cet article, si je me trompe pas. Cette importance accordée aux émotions humaines du Christ, est-ce qu'elles sont toujours importantes pour nous aujourd'hui?
Ce texte sur la vie émotionnelle de notre Seigneur, c'est un texte qui m'a profondément emporté en quelque sorte quand je l'ai lu, et j'ai fait son éloge. Je crois, je peux pas le prouver, hein, je veux pas me parer les plumes du port, mais je crois que c'est parce que j'en ai fait l'éloge que certains du groupe Rockma ont entrepris de le traduire. Et donc, j'ai peut-être une petite part au moins dans la publication de ce texte que je trouve si beau. Hein. Et le sujet étant très très rarement traité, c'est de manière entièrement conforme à l'orthodoxie que Warfield, qui a été un défenseur si fort de la divinité du Christ, n'a pas du tout affaibli l'affirmation de son humanité, la plénitude, la pleine consistance de son humanité, et su retrouver dans les textes des évangiles tous les indices sur une vie d'émotion proprement humaine de notre Seigneur Jésus. Oui, non, c'est un très beau texte. Oui. Et je suis heureux si j'ai contribué à ce qu'il paraisse en français.
Merci. C'est vrai que dans le monde évangélique, parfois, au niveau en tout cas des églises locales et des membres d'églises locales, on tâtonne toujours un petit peu encore sur ces questions trinitaires ou christologiques. Et même si aujourd'hui, c'est quand même la tendance du moment d'accentuer l'humanité de Jésus, au moins au niveau académique, et d'être très au clair sur sa complète humanité, malgré tout, il y a toujours un fond de docétisme qui, en tout cas, qui peut teinter la compréhension de certains des paroissiens des églises évangéliques, avec cette idée que Jésus est Dieu. Et donc on le dit clairement peut-être par rapport à d'autres secteurs aujourd'hui du christianisme, mais parfois on le fait au détriment de l'humanité. Et donc se rappeler que Jésus a eu des vraies émotions humaines parce qu'il était un vrai homme, eh bien c'est aussi quelque chose qui est toujours aussi important aujourd'hui, même si on est des siècles après le concile christologique.
Là, je rappelle encore un petit conseil de lecture. L'ouvrage, qui n'est pas un gros ouvrage, mais significatif, de Nigel de Ségur Cameron, Jésus est un homme. C'était Bougin qui était nommé avec son amitié pendant des temps très proches. Il est descendant de la famille de Ségur. Hein, il s'appelle Nigel de Ségur Cameron. Mais c'est en Écosse, puis ensuite aux États-Unis. Il a gardé son ministère.
On arrive sans doute vers la fin de cet entretien. Peut-être qu'on peut parler d'un aspect, pour conclure cette émission, qu'éventuellement vous pourriez juger plus faible dans les contributions, dans la contribution théologique globale de Billy Warfield. On sait que Cornelius Vanti, auquel on consacrerait probablement une autre émission, a reproché à Warfield, dont il a été en quelque sorte le successeur, même si c'était plus dans la même institution, mais c'était Westminster Seminary voulait être le successeur de l'ancien Princeton avant le remaniement qui a présidé à la mise en avant d'un libéralisme au sein de cette institution. Donc Vanti, professeur d'apologétique, était en quelque sorte le successeur de Warfield, professeur de une théologie polémique à Princeton. Il a reproché à Warfield son approche dite classique de l'apologétique, et il a proposé à la place une apologétique dite présuppositionnaliste. Est-ce que vous pouvez, en quelques mots, nous brosser à grands traits ces deux différentes approches? Et puis, comment est-ce que vous vous situez dans ce débat? Est-ce que vous pensez que la critique que Vanti a faite de Warfield en apologétique était justifiée?
Quant à la dualité des approches, je pense qu'au risque de caricaturer, de simplifier à l'excès, je dirais que vous avez une tendance qui correspond au calvinisme classique du temps de l'orthodoxie réformée. La position de Calvin lui-même est discutée, donc on le met à part, mais qui correspond en gros à ce qu'on trouve au XVIIe siècle et dans les deux siècles qui suivent, qui est confiance en la raison pour déterminer les questions théologiques sur la base de l'autorité scripturaire, mais il a l'air de considérer que la raison, malgré les affaiblissements que le péché entraîne, est encore un instrument assez adéquat pour conclure sur la plupart des questions théologiques. Et puis la tendance qu'on peut appeler néo-calviniste, qui commence vraiment au XIXe siècle avec l'œuvre d'Abraham Kuyper, qui souligne qu'avant tout exercice de la raison, il y a des présupposés. Il y a une foi préalable, les types de foi pouvant s'opposer entre eux, s'opposant de fait entre eux. Il y a des postulats, des axiomes, des visions du monde qui orientent l'ensemble, des motifs fondamentaux qui précèdent l'exercice de la raison, de telle sorte que la raison n'est pas un outil neutre. Warfield, à coup sûr, s'inscrit dans la tradition du calvinisme ancien, bien qu'il ait connu Kuyper, et son collègue, donc, qui est inséparable, Hermann Göring, et qu'il ait montré à leur égard la plus vive sympathie. C'est lui qui les a fait venir, et Kuiper et Göring, aux États-Unis, et qui leur a donné une audience considérable. Donc, les opposés seraient certainement très, très contraires à la relation historiquement attestée entre ces hommes. Et en ce qui concerne la différence, pourrait-on dire, doctrinale, intellectuellement repérable entre les deux tendances, je pense qu'il ne faut pas exagérer l'écart. Il y a un écart, mais de fait, parce qu'il reconnaît entièrement les effets sur la raison de la chute du péché, de la déchéance, Warfield ne fonctionne pas avec une raison autonome à la manière du rationalisme libéral. En fait, sa raison reste déterminée par le motif biblique, mais il ne l'a pas très explicitement reconnu. Il semble avoir fait confiance en un âge où le succès de la science était époustouflant, où tous les intellectuels étaient émerveillés par ses réussites. Il a cru pouvoir s'appuyer sur l'autorité de la raison dans ses démarches, mais sous l'autorité d'écriture.
Ce qui est intéressant dans la différence d'approche aussi, c'est qu'il ne situe pas la fonction de l'apologétique de la même manière. Quand on voit la place de l'apologétique dans ce qu'on appelle l'encyclopédie théologique, Kuiper va la mettre assez tardivement, et en fait, il s'agit essentiellement d'expliquer au monde les doctrines chrétiennes qu'on a développées par ailleurs, et donc comment est-ce qu'on va faire la relation et défendre devant le monde les choses qu'on sait déjà par ailleurs. Alors que quand on voit discuter Warfield de la place de la politique, en fait, pour lui, il y a deux sujets centraux, c'est l'existence de Dieu et c'est le fait qu'il parle dans l'écriture, que l'écriture est la parole de Dieu. Donc, c'est des sujets pour lui de prolégomène. Donc, ça vient en premier lieu dans l'entreprise théologique. Et sans doute, ça correspond aussi à deux approches entre les Pays-Bas et les États-Unis, ou cette partie des États-Unis-là, avec deux traditions philosophiques sous-jacentes qui sont un peu différentes, avec le common sense écossais, et d'un côté, qui est une forme de réalisme modéré, et de l'autre côté, même au niveau du langage, en tout cas, avec l'idée de vision du monde, l'idée de motif de base, où on sent que l'idéalisme allemand est plus prégnant au niveau de l'influence de la construction d'ensemble.
Oui, je suis d'accord avec ce que vous dites, et moi je penche du côté néo-calviniste, que rien, etc., et l'antilien, en ce qui me concerne, mais je refuse de creuser le fossé, et je considère que ce que Warfield a effectivement réalisé peut être récupéré et utilisé.
Merci, Monsieur Blocher. Nous arrivons au terme de cet entretien très riche, là encore en éclairage de toutes sortes sur Warfield et puis sur des sujets connexes, un peu connectés. On a parfois débordé, on s'est pas concentré uniquement sur la personne et sur l'œuvre de Warfield à chaque instant. Je suis sûr que ça donnera à nos auditeurs, en tout cas je l'espère, le désir de se plonger dans la pensée de cet auteur marquant, même si malheureusement, pour l'essentiel, il leur faudra lire l'américain. Ça risque d'être difficile. À part ce grand article dans Rokhma sur les émotions, la vie émotionnelle de notre Seigneur Jésus, hein, nos auditeurs peuvent peut-être commencer par là. Pour le reste, il faudra sans doute lire en anglais. Bon, aujourd'hui, on peut aussi dire à nos auditeurs qu'ils peuvent trouver assez facilement maintenant sur Internet les articles de Bibliographie, puisque tout est dans le domaine public, c'est assez facile à trouver. Et aujourd'hui, les traducteurs automatiques ont fait d'énormes progrès. Donc, même si votre américain n'est pas terrible, vous pouvez bénéficier dans une très large mesure, peut-être un peu moins de précision que si vous avez une bonne maîtrise de la langue originale, mais vous pouvez tout de même bénéficier de la richesse de la pensée de Bibi, de Benjamin Breckinridge Warfield. Monsieur Blocher, un très grand merci à vous pour tous ces éclairages, pour cette discussion.
Merci, merci, cher Monsieur Pony.
et au revoir, Monsieur Blocher.
Au revoir. Thank you.